Vous êtes sur RTL.
Et le journal, c'est avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une, grève et manifestation aujourd'hui dans tout le pays.
Un appel de plusieurs syndicats, mobilisation pour l'emploi et les salaires, le point sur les perturbations attendues dès le début de ce journal. Taire sa religion, ne pas se dire juif par peur d'être frappé, lynché en 2022 en France est encore une réalité dans certains quartiers. Reportage à suivre. Dans ce journal également, les ambitions de Renault. Le groupe s'apprête à dévoiler sa feuille de route. Il pourrait investir 20 milliards d'euros pour accélérer sa transition vers l'électrique. Et puis le début officiel demain de la collecte des parrainages pour les candidats à l'élection présidentielle. Terminer les promesses cette fois, le formulaire doit être rempli et signé.
Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous allez surfer avec le film Bac Nord, nominé au César.
Et vous verrez qu'il a d'ores et déjà gagné le prix de la récupération politique.
A tout à l'heure, après le journal.
RTL Matin.
À moins de 3 mois du scrutin présidentiel, la CGT, FO, FSU et Solidaires appellent donc à une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi en faveur des salaires et de l'emploi. Les organisateurs réclament notamment une augmentation du SMIC et du point d'indice des fonctionnaires et plus généralement de tous les salaires dans un contexte de forte inflation. Des manifestations sont annoncées dans tout le pays et quelques perturbations à prévoir essentiellement dans les écoles et les transports. Le point avec Marie Garrier.
15% des enseignants du primaire en grève, selon les syndicats mobilisés aujourd'hui. C'est beaucoup moins que le 13 janvier, mais il y aura des classes fermées et des écoles fermées, une cinquantaine par exemple à Paris. Grève aussi des agents des collectivités territoriales, et là ça veut dire localement pas de cantine et pas de garderie. La mobilisation des fonctionnaires va aussi désorganiser, ici et là, le fonctionnement des crèches, des services administratifs, la distribution du courrier ou le ramassage des poubelles. Trafic perturbé dans les transports urbains, à Nice, Reims, Dijon, Grenoble ou encore à Rennes. À la SNCF, des perturbations limitées sur les lignes régionales, les TER dans les Hauts-de-France, en Normandie, en Pays de la Loire, en Occitanie. En Île-de-France, 3 RER sur 4 en circulation aujourd'hui sur les lignes A et C, 1 sur 3 sur la partie nord du RER B et 2 sur 3 sur la partie sud. Pas d'interconnexion à la gare du Nord. Le métro parisien, lui, circule normalement.
Marie Guerrier, à Brest, les transports en commun étaient à l'arrêt hier soir. Ils le seront chaque soir après 20h et jusqu'à nouvel ordre. Rien à voir cette fois avec un mouvement de grève, mais c'est la conséquence d'une série de violences urbaines. Hier soir, des tirs de mortiers d'artifice ont visé un tramway et un bus.
RTL, il est 6h32. Jean Castex sera en Pologne aujourd'hui, le Premier ministre attendu pour commémorer le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz.
En cette occasion, l'IFOP a révélé hier un sondage, une étude réalisée auprès des Juifs français dont le constat est sans appel. L'antisémitisme aujourd'hui en France est toujours une réalité. La moitié des personnes interrogées ont déjà été victimes d'insultes. Plus grave encore, un juif sur deux conseille à son enfant de taire sa confession. Dans certains quartiers, dans certaines villes, il est encore plus difficile de vivre sa religion. C'est le cas à Créteil, dans le Val-de-Marne, quartier du port où réside une importante communauté juive et où s'est rendu Vincent Serrano pour RTL.
Et ça a changé.
Au bord de l'eau, les yeux rivés sur leur lotissement, Marc et Carole pointent du doigt plusieurs fenêtres, celles de voisins. Les bras se croisent, ils soupirent, des amis juifs, comme nous.
Ouais, mais ils sont plus là. Ils ont quitté Créteil et si j'ai la possibilité demain, je m'en vais aussi.
Au centre commercial, vous le voyez, il y avait certains magasins, certaines enseignes qui n'existent plus aujourd'hui. Quand j'avais mes enfants petits, on se baladait. Aujourd'hui, on est moins en sécurité.
On n'a pas été dans le bon sens. Je quitte. Ça y est, Créteil, basta.
Alors, les enfants ont grandi, ils sont partis, mais ceux d'une voisine, Muriel, sont toujours scolarisés au collège. Et leur mère leur a demandé une chose, c'est de se faire discret.
Ah bah, clairement. Ils ne portent pas la kippa à l'extérieur. Je ne veux pas qu'ils soient cibles. De comprendre pour un adolescent que c'est pour sa propre sécurité, c'est difficile, c'est injuste. Enfin, l'aîné qui plutôt se renferme et dit « Non, je ne dis pas que je suis juif ». Et quand on lui pose des questions « Pourquoi tu manges pas de viande ?»« Eh ben, je suis végétarien ». Voilà, l'exemple parfait de « Je ne dis pas que je suis juif ». Ah voilà. Oui, cette vigilance, elle est constante.
Le plus grand de ses fils qui étudie à l'étranger, qui a déjà prévenu sa mère, pas sûr qu'il rentre en France, vu le contexte actuel.
Un reportage signé Vincent Serrano. Emmanuel Macron a fait lui un geste fort hier en direction des Harkis. À l'approche du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, le chef de l'État a reconnu 2 massacres qui se sont produits après la signature des accords d'Évian, notamment la fusillade de la rue d'Isly à Alger, des dizaines de partisans de l'Algérie française tués par l'armée. Un épisode impardonnable pour la République, a dit le président.
À suivre sur RTL à 6h34, Renault qui est prêt à mettre plusieurs milliards sur la table pour accélérer sa révolution électrique. Restez avec nous pour le journal de Dominique Tenza, tout de suite.
Jérôme Florin,
RTL Matin jusqu'à 7h.
RTL Matin.
RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est donc tout à l'heure à 9h30 que l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi dévoilera sa feuille de route pour les 5 ans à venir, notamment ce qui concerne l'électrique.
Oui, et le plan d'investissement s'annonce colossal. Certaines sources citées par l'agence Reuters évoquent jusqu'à 20 milliards d'euros. Et la France devrait en profiter. Ainsi, la remplaçante de la Nissan Micra, par exemple, actuellement produite à Flins, sera assemblée à Douai. Douai qui accueillera également les toutes premières Mégane électriques et qui voit sa chaîne de montage se transformer peu à peu. Christophe Bourreau s'est rendu dans l'usine pour RTL.
C'est ici, en plein cœur de l'usine, sur 1 km de long, que s'étend la nouvelle chaîne de montage ultra moderne. 600 robots et des postes de travail aménagés. L'idée est d'y assembler aussi bien des voitures thermiques qu'électriques. Une vraie prouesse technologique, selon Luciano Biondo, le directeur du site.
On a investi plus de 500 millions d'euros. On a mis en place un atelier de batterie juste derrière nous. On a digitalisé la production. Aujourd'hui, sur cette ligne de production, on fabrique le Renault Scénic, le Renault Talisman et le Renault Espace et la Mégane E-Tech sur la même ligne. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. En 2022, notre objectif, c'est 80% de Renault Mégane E-Tech et 20% de véhicules thermiques.
Une vraie bouffée d'oxygène pour les 2700 salariés comme Yolanda, 36 ans, qui vient tout juste de signer son premier CDD d'un an.
On savait qu'il y avait la nouvelle Mégane qui arrivait, donc une très belle opportunité, oui. Surtout dans notre secteur Hauts-de-France, surtout en cette période assez compliquée.
Des embauches à Douai, mais aussi sur les sites voisins de Maubeuge et Ruy. Au total, ce pôle électrique devrait générer pas moins de 700 emplois directs d'ici à 2025.
Un reportage de Christophe Bourreau. Le décret vient d'être publié au journal officiel. À partir du 1er mars, les restaurants et les cantines devront obligatoirement afficher l'origine des viandes. C'était déjà le cas pour le bœuf depuis les années 2000 et la crise de la vache folle. Ce sera désormais le cas aussi pour la volaille, le porc et pour l'agneau.
RTL 6h38, la politique avec le lancement officiel dès demain de la collecte des parrainages.
Ouais, vous connaissez la règle, elle est en vigueur depuis 1976. Il faut au candidat un minimum de 500 signatures d'élus pour figurer au premier tour. On ne parle plus de promesses de parrainage, mais bien de parrainage avec un formulaire rempli, signé et validé par le Conseil constitutionnel.
On y reviendra d'ailleurs avec Aurélie Herbemont dans une dizaine de minutes. D'ici là, on va s'intéresser à la primaire populaire, dépassée, semble-t-il, par son succès.
Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, les organisateurs qui espéraient rassembler le plus de monde possible n'avait pas anticipé l'afflux d'inscriptions. Le vote doit démarrer ce matin à 10h et durer jusqu'à dimanche. Il est censé désigner la personnalité capable d'unir la gauche, mais les initiateurs sont déjà à court de budget, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, près de 300 000 euros à trouver en 4 jours. La primaire populaire vient donc de lancer un appel aux dons de dernière minute. Le budget était pourtant calé, mais selon les organisateurs, l'afflux d'inscriptions accroît les dépenses. 1 300 000 euros depuis mars, dont une bonne partie pour sécuriser les opérations de vote. Mais qui paie, s'interrogent leurs détracteurs qui les accusent d'amateurisme et pointent du doigt les 18 salariés de l'association. Réponse des intéressés, les seuls financeurs sont des particuliers via un emprunt auprès de quelques bienfaiteurs, mais surtout des dons entre 20 et 60 euros en majorité, pour un total d'environ 700 000 euros. Ces dépenses pourraient-elles être imputées sur le compte du candidat désigné ? Les organisateurs certifient que non, puisqu'ils ne sont pas une organisation politique. En l'état, ce sera à la commission des comptes de campagne d'examiner ce point après la présidentielle, dit pourtant Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui préfère rester prudent.
Marie-Bénédicte Allaire.
Sur le fil, nos handballeurs se sont qualifiés hier soir pour la suite de l'Euro au terme d'un match absolument dingue face aux Danois.
On est qualifiés pour les demi-finales en battant donc le Danemark 30 à 29. Un petit point d'écart, une remontée spectaculaire alors qu'ils étaient menés 5 buts à 12 minutes de la fin. Ils affronteront la Suède demain pour une place en finale. En foot, Saint-Etienne a enfin stoppé la série noire après 7 défaites consécutives. Les Verts ont gagné hier soir à Angers 1-0. Et puis on connaît les porte-drapeaux de la France pour les Jeux Olympiques d'hiver qui vont s'ouvrir le 4 février à Pékin. Comme à Tokyo, ce sera un duo homme-femme, la skieuse Tessa Worley et le skieur freestyle Kevin Roland. Pour les Paralympiques en mars, ce sera le biathlète Benjamin Davier.
Merci beaucoup.